scientifique, alors qu'il n'en est rien. La science est une construction sociale. Il n'y a pas de vérité objective. La science est le résultat d'un ensemble de pratiques. Et une théorie scientifique est une production collective qui n'est ni neutre, ni rationnelle, ni indépendante du contexte. Je vous renvoie au livre « Le moment orwellien » pour en savoir plus. Et puis pour saisir qu'être militant n'empêche pas de faire correctement son travail scientifique, qui est après tout ce qu'on demande à un scientifique. Même si faire bien son boulot de recherche est aujourd'hui de plus en plus dur, car le gouvernement supprime petit à petit les conditions nécessaires à un exercice universitaire correct, comme par exemple avec la généralisation des appels à projets.
Alors voilà, en fait, c'est une manière de nous domestiquer, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une manière de dire on va pas vous donner de l'argent pérenne et on va pas vous faire confiance pour développer les recherches que vous, en tant que chercheuses et chercheurs, collectivement, vous allez vous dire c'est ici qu'il faut qu'on mette de l'énergie, etc. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de milieux qui sont pas forcément de la recherche et qui peuvent correspondre à une commande politique. Et qui oriente fortement, donc c'est pas de la recherche appliquée, mais en tout cas c'est des domaines prioritaires. Et en fait, il y a des dossiers assez non seulement longs à remplir, mais aussi qui ne correspondent pas à la manière dont fonctionne la recherche. C'est-à-dire que ça va être adapté de logiques de projet qu'on trouve dans l'entreprise pour des choses très concrètes et qui sont très bien et qui fonctionnent sans doute très bien dans l'entreprise pour savoir quels seront les livrables, sur quel calendrier, avec des chronogrammes, etc. Des tas de choses un peu barbares, mais d'une part sur lesquelles on n'a pas forcément été formé, donc ça nous demande d'apprendre à le faire, pourquoi pas, mais surtout, ils ne correspondent absolument pas. C'est-à-dire qu'on nous demande un peu à l'avance ce qu'on va trouver, alors que le principe de la recherche, c'est que on va construire nos questionnements, faire se dérouler soit des expériences si on est dans des sciences expérimentales, soit quelle collecte de sources, comment est-ce qu'on va réagir, etc. Et donc, on ne peut pas vraiment donner à l'avance les résultats qu'on va avoir. Et donc, en fait, c'est des fonctionnements qui sont extrêmement différents. Et donc, il y a une dynamique de commande, c'est-à-dire on va nous dire ce sur quoi il faut orienter les recherches. On donne l'exemple un peu amer de ce collègue qui travaillait sur les coronavirus plusieurs années avant le déclenchement de l'épidémie de Covid et qui n'a jamais obtenu de financement. Et finalement, c'est d'autres chercheurs dans d'autres pays qui ont pu publier sur ces questions-là. Et lui, il voyait bien qu'il y avait un intérêt, une urgence à travailler sur ces questions-là, mais ça ne correspondait pas à la politique du moment. Et donc là, il ne s'est pas senti écouté et c'était dommage. Et donc, il ironise un peu sur ces appels à projets. Et donc, c'est il rit jaune, quoi, en quelque sorte. Mais donc, ça correspond à une commande, ça correspond à aussi une manière de domestiquer notre temps, c'est-à-dire qu'au lieu de nous donner les moyens de travailler, on a servi une partie de notre temps à répondre à ces appels à projets dont les résultats sont... le taux de réussite est très bas et donc en fait on passe beaucoup de temps à rédiger ces appels à projets sans obtenir les financements qui vont avec. Et donc c'est vrai qu'on considère que c'est aussi un gaspillage non seulement de nos ressources mais des ressources que collectivement, encore une fois, c'est de l'argent public. Et donc en fait on estime, on pense et on espère convaincre aussi nos concitoyennes et concitoyens que peut-être il y a une meilleure manière d'utiliser le temps de chercheuses et chercheurs à qui on a fait confiance, qu'on a recruté après un long processus pour essayer d'éviter cette dynamique d'appel à projet qui est une forme de domestication et de gaspillage de notre temps.
Alors, comment faire? Comment résister?
Alors, la première chose qu'on se dit dans le livre et qu'on invite tout le monde à faire, c'est effectivement de pas essayer de pas se laisser avoir par la novlangue, par le newspeak, et tant qu'il nous reste cette possibilité de rétablir la réalité sur l'usage de certains mots. On prend l'exemple, encore une fois, on parle beaucoup de l'université, mais donc il y a ce programme qui a été appelé Bienvenue en France, qui est le programme d'accueil des étudiants étrangers en France. Et ce programme Bienvenue en France, en fait, ce qu'il fait, c'est de dire on va faire payer les étudiants étrangers qui viennent en France et on va les faire payer plus que les étudiants étudiantes français. Et c'est aussi une logique de tri, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les étudiants étudiantes qui vont pouvoir se permettre de payer cela, et donc issus de certaines catégories socio-professionnelles, de certains pays, etc., qui vont pouvoir se le permettre. Et donc c'est un exemple qu'on donne de on appelle ce programme Bienvenue en France, mais en fait, c'est pas bienvenue qu'on est en train de dire. On est en train de dire on va vous trier en fonction des nationalités et des catégories socio-professionnelles désirées.
D'abord, résister à l'appauvrissement de la langue et donc de la pensée, nous dit Emmanuel Pérez-Tisserand, et ne pas se soumettre en avance. Une exigence de lucidité que rappelle Timothy Snyder, un historien américain cité dans le livre « Le moment orwellien ». Je cite d'ailleurs la suite de ce passage « L'obéissance anticipatrice, qui consiste à s'adapter instinctivement à une situation nouvelle sans même y réfléchir, est le premier rouage par lequel s'installe l'autoritarisme. Dans le monde scientifique, refuser l'orthodoxie devient une forme de résistance minimale, mais décisive pour que la recherche ne se transforme pas, comme dans 1984, en un auxiliaire technologique du pouvoir. »
Il y a cette idée d'essayer de, d'être le plus humain, humaine possible, en fait, dans notre manière de faire notre travail, pour ne pas perdre de vue le sens de ce qu'on fait et faire collectif. Ça nous paraît fondamental, c'est-à-dire que arriver à se parler entre différents secteurs, travailleuses, travailleurs dans la société pour essayer de défendre le sens de ce qu'on fait contre un rouleau compresseur de mise en concurrence ou d'assèchement des moyens. Puis en tant que scientifique de toutes les sciences, qu'elles soient humaines, du vivant, sociales, etc., d'arriver à peut-être mieux transmettre, communiquer comment est-ce que ces connaissances, elles ne sont pas des choses qui permettent de trier des élites qui sauraient avec des gens qui ne savent pas, mais comment en fait ces savoirs, ils peuvent tous nous apporter quelque chose et qu'on les met au service, ou en tout cas qu'on espère qu'ils vont éveiller des choses pour prendre des meilleures décisions collectives, en fait, en commun.
Emmanuel Pérez-Tisserand m'a aussi raconté la peur et le silence chez ses collègues américains. L'enjeu des collectifs et de la transmission, c'est de ne pas rester seul avec sa peur, de ne pas rester figé, mais d'agir toujours. Car comme il est rappelé dans le livre, l'inaction, l'allégeance, la peur sont des piliers d'un pouvoir autoritaire. Il faut passer à l'acte. Et pour cela, il faut la force des liens, du collectif et des réseaux de solidarité.
Et on voit très bien, en fait, comment il y a cette logique de « Ah, on s'attaque d'abord aux plus faibles, et puis, en fait, du coup, comme on s'estime un peu plus privilégié, on s'en occupe pas forcément. » Et en fait, là, on voit avec l'accélération qu'on voit progressivement qu'en fait, il faut pas s'estimer protégé par un pouvoir qui veut avoir du pouvoir sur sa population, parce qu'en fait, les plus vulnérables vont être attaqués en premier, mais le tour de chacun viendra, en fait. Et c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est-à-dire que au niveau universitaire, les sciences humaines et sociales sont toujours les premières à attaquer comme étant les moins scientifiques, les plus militantes, etc. Et donc les sciences entre guillemets dures, donc la médecine, l'astrophysique, etc., se sentaient moins touchées. Et en fait, on a vu que au deuxième mandat Trump, toutes les disciplines scientifiques ont été attaquées par l'administration Trump. Et donc Ça revient un peu à cette logique de résistance où il ne faut pas s'estimer protégé et privilégié. C'est vraiment important d'avoir des formes de solidarité envers, dès les premières attaques de principe, en fait, réagir. Et c'est vrai que là, on a vu dans cette répression la montée en puissance, une sorte de thought police, police de la pensée, et de police politique qui est ICE, donc la police d'immigration, qui a été envoyée par Trump dans des villes estimés donc à majorité démocrate, estimés donc comme des rivales, des ennemis, etc. Donc on a vu débarquer à Los Angeles notamment avec des énormes mobilisations où ils ont fait des rafles dans des quartiers avec du profilage, etc. C'est aussi un endroit d'expérimentation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment des choses qui sont effrayantes dans une démocratie, ailleurs aussi, mais qu'on ne pensait pas avoir dans une démocratie. Et finalement, là, en janvier 2026, on voit que ICE a commis des meurtres, c'est-à-dire à exécuter à bout portant des citoyens américains qui étaient présents à des manifestations et des mobilisations pour essayer de limiter ces rafles de cette police. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très préoccupant, mais qui nous enseigne aussi qu'il faut... Il ne faut pas céder sur les principes et pas penser qu'on peut être protégé. Et en fait, dès qu'il y a les premières attaques, se mobiliser collectivement avant qu'il soit trop tard.
Emmanuel Perez-Tisserand fait partie de ces personnes, ces scientifiques, qui élaborent des savoirs qui ne servent pas à la domination, mais bien au contraire à l'émancipation et à construire une société plus juste. Alors n'ayons pas peur, ni des scientifiques, ni des savoirs scientifiques. Ils sont nécessaires pour établir une société plus humaine, comme le disait Emmanuel Perez-Tisserand. Allez, continuons notre discussion avec une nouvelle invitée.
Bonjour, je m'appelle Émilie Arouag, je suis autrice de livres et je me passionne pour toutes les questions qui ont trait à la justice, à un monde meilleur en fait, dans le plus grand sens du terme. Donc tout ce qui nous mène vers des utopies plus heureuses, plus joyeuses, plus égalitaires.
C'est grâce à la science et aux sciences sociales et humaines, mais aussi à l'histoire, par exemple, qu'Émilie Arouag, qui est politologue, peut décrypter les systèmes d'oppression et de domination qui traversent notre société. Cette berlinoise d'adoption, en tout cas c'est la ville qu'elle a choisi d'habiter il y a une vingtaine d'années déjà, travaille notamment sur l'intersectionnalité et la justice sociale. Dans son livre « L'envers du monde, défaire les dominations, repenser la justice », paru il y a peu aux éditions Hors d'atteinte, Émilie Arouag décrypte des mécanismes qu'on préférerait ne pas voir et qui pourtant sont bien ancrés dans nos vies. C'est un vaste programme de nous proposer à nous, lecteurs, lectrices, de réaliser les dominations systémiques qui gangrènent nos sociétés et de nous proposer de les défaire.
Alors en fait, l'objectif, c'était pas d'arriver avec une solution et de changer le monde, en fait. L'idée, c'était d'exposer ce qui est souvent caché et dissimulé derrière un discours qui nous fait accepter et légitimer l'injustice qui nous entoure. Donc en fait, moi, c'était vraiment de montrer comment ces injustices, comment ces inégalités, elles se manifestent, elles se matérialisent dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie, donc à la maison, au travail, dans les médias, à l'école. Et c'était le but. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui bouillonnait en moi. En fait, je me rendais compte que j'avais envie de faire voir les choses aux autres et que très souvent, c'était un petit peu une posture non sollicitée. Donc, j'essayais toujours un petit peu comme une croisade, d'essayer surtout autour de moi, dans ma famille. Donc, j'essayais souvent de parler de, voilà, regarde l'oppression, le patriarcat, le racisme, etc. Et je me suis dit, non, en fait, le mettre dans un livre, c'est vraiment une posture un petit peu plus douce où je n'impose rien, en fait, je montre mon regard et puis les gens qui sont intéressés peuvent aller chercher le livre.
Punk domestic violence men and quick job asking them stop
acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Come again.
Petite blanc dans du poil sous les bras.
Dans la première partie de cette émission, Emmanuel Pérez-Tisserand nous parlait de l'appauvrissement de la langue comme outil des régimes autoritaires. En écho, Emilia Roig cite dans son livre une journaliste germano-turque, Kubra Gümüşay, qui a écrit dans son livre « Langue et être », pardon de ne pas vous donner le titre en allemand, mais je n'ai jamais appris à lire correctement l'allemand. Donc dans son livre « Langue et être », elle décrit les effets des mots qui n'existent pas. Je cite « Ainsi, les gens restent sans voix et sans pouvoir face à une injustice qui n'a pas encore été exprimée. » L'intérêt du livre d'Emilia Roig est de mettre des mots, de visibiliser et de faire exister une réalité et de combattre le sentiment d'impuissance. Et cette réalité, c'est la sienne d'abord et la nôtre aussi puisque nous faisons tous et toutes partie du problème. Peut-on d'ailleurs se dire que non, qu'on ne fait pas partie de ce grand tout-là, de cette société qui contient oppresseurs ou oppressés ?
Bah, on ne pourra jamais enlever que je ne suis pas blanche, par exemple. Donc, même si je n'ai pas de handicap, même si voilà, je ne suis pas une personne trans, donc je suis une personne cis, même si bon, voilà, tous les axes sur lesquels je suis privilégiée, par exemple, il y a d'autres axes qui vont pas annuler. C'est-à-dire que les discriminations, l'oppression, ça ne s'annule pas. C'est juste que je pense que c'est important justement de penser en termes d'articulation. Ils s'articulent entre eux. Et donc, je pense que c'est important justement de ne pas essentialiser ou alors de ne pas réduire toute une personne à une identité. Par exemple, une personne qui dirait, voilà, moi, je suis femme, donc je suis discriminée et se focaliser totalement sur cet angle-là, mais sans voir que cette personne est riche, que cette personne est blanche, que cette personne est hétéro, etc. Donc, c'est pour ça. Après, je vois les identités aussi comme... des grilles d'analyse, donc c'est pas forcément des catégories auxquelles on doit s'attacher et s'ancrer et surtout s'identifier constamment, parce qu'en fait elles sont avouées à disparaître dans un monde sans oppression. C'est pour ça, alors il y a des gens qui vont dire par exemple « Ah non, mais moi je vois pas la couleur de peau, pour moi on est tous humains, les couleurs de peau n'existent pas ». Donc ça c'est une posture hyper problématique parce qu'on n'en est pas là. Mais... en fait, le but ultime, c'est de faire disparaître ces catégories. Et pour l'instant, tant qu'elles n'ont pas disparu, on doit les utiliser comme grille d'analyse, comme grille de compréhension, une des grilles de compréhension du monde. Pas l'unique grille de compréhension, mais une d'entre elles qui est importante à mon sens.
Dans son livre, Emilia Roig parle aussi du patriarcat qui se glisse dans les gestes anodins, les répartitions naturelles, les silences et les habitudes. Un patriarcat qui se niche dans l'inconscient et les réflexes acquis dès l'enfance. Mais à côté du patriarcat, d'autres systèmes d'oppression existent et ils sont tous liés. C'est de là qu'est partie l'idée d'écrire ce livre.
Alors en fait, il découle des trois systèmes d'oppression majeurs en fait, qui ont bien sûr des sous-types de systèmes, c'est le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Et donc dans le racisme, ça englobe le colonialisme, l'impérialisme, etc. Et donc ces trois grands systèmes d'oppression, ils créent des hiérarchies en fait, ou alors ils créent des hiérarchies et ils se nourrissent de ces hiérarchies. Et du coup, c'est pas que c'est infini, parce que souvent on va entendre aussi une critique de l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité, c'est un terme justement qui permet de comprendre les discriminations justement dans leur complexité, en regardant pas seulement la question du genre, mais aussi la question du racisme, la question du classisme, etc. En fait, on va dire oui, mais c'est infini, il y a tellement de discrimination, ça peut être tout. Voilà, moi je peux être discriminée parce que j'aime les chiens au lieu des chats. Bah non, en fait. Donc on va toujours regarder seulement les types de discrimination qui sont basés sur une hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, donc par exemple, je vais dire, bah, moi, une partie de mon identité, c'est d'adorer le jaune et d'aimer la randonnée. Est-ce que ces différences-là, ça peut être la base d'une discrimination ? Ben non, parce que en fait, on ne trouve pas dans les sphères de pouvoir seulement des personnes dont la couleur préférée est le bleu, ou alors seulement des personnes qui détestent se randonner. Donc en fait, il faut toujours savoir, est-ce que c'est une identité qui donne accès à une forme de pouvoir sociétal ? Est-ce que cette identité-là, elle est la base d'une hiérarchie ? Si oui, dans ce cas, on va en parler et c'est pertinent. Et sinon, bah non, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas infini. En fait, on peut les délimiter de manière assez réduite. Donc, je dirais qu'il y a le genre, l'orientation sexuelle, la classe sociale, le handicap ou non. Il y a la géographie, il y a les accents, le langage, il y a la corpulence. Voilà, j'en oublie peut-être un ou deux. Là, bon, la religion, mais ça se rattache aussi à la notion de race, parce que les religions sont racisées. C'est-à-dire que si une religion n'est pas racisée, en général, elle ne va pas être hiérarchisée. Donc voilà, en fait, on va toujours regarder voilà, cette différence. Voilà, il peut y avoir une différence, donc aimer le bleu ou le jaune. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux différences? S'il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas pertinent.
Alors moi, dans presque toutes les émissions, j'ai envie de demander à mes invités, mais comment on fait alors? Comment on résiste? Et puis surtout, par où on commence? Parce que si tout est lié, eh bien on peut vite être un peu perdu avec tout ça.
Alors déjà, on n'est pas obligé de tout gérer en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, se focaliser sur le validisme et se dire, voilà, moi, c'est vraiment mon axe, je combats le validisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement avoir un axe privilégié dans lequel privilégié, c'est un mauvais choix de mots, mais dans lequel on va vraiment focaliser toute son attention. Et en attendant, c'est important, en le faisant, de savoir qu'il y a d'autres forces qui vont aussi impacter. Par exemple, si on s'occupe de validisme, il va falloir aussi comment ça impacte les personnes, par exemple, handicapées, qui sont aussi noires, qui sont aussi trans, qui sont peut-être aussi sans domicile, etc., sans papier. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est toujours avoir une grille d'analyse qui va prendre en compte d'autres axes de discrimination. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ça devient quand même plus faisable. C'est pareil dans le féminisme, en fait. On ne dit pas, voilà, il ne faut plus être féministe uniquement, il faut être aussi antiraciste tout de suite. Non, on peut aussi rester principalement féministe, mais toujours avoir une grille de lecture et une grille d'analyse qui inclut, en fait, d'autres systèmes d'oppression.
Dans L'Envers du Monde, aux éditions Hors d'Atteinte, Emilia Roig parle des feux qui régulent la circulation. Elle dit, en somme, que dans la plupart des pays, ces feux ont été conçus comme des aides à l'évaluation personnelle, et non pas comme des commandements divins. Aujourd'hui, moi la première, j'agis souvent plutôt comme une automate, j'obéis mécaniquement parfois. Alors qu'il est sûrement moins dangereux de traverser au rouge quand aucune voiture n'est à l'horizon, que de traverser au vert quand une voiture arrive un peu vite. Pour changer le monde, il faut qu'on garde notre libre arbitre, notre capacité à analyser les situations et bien sûr une capacité à ne pas obéir bêtement. Il faut donc que nous renforcions la capacité de chacun et chacune à avoir cette pensée critique. Rien ne sert d'essayer de convaincre, il faut donner des outils de compréhension du monde.
Alors déjà, ma posture, moi, c'est jamais de convaincre les gens, même si ça l'a été dans le passé. Mais là, maintenant, vraiment, j'ai passé un cap. C'est plus du tout mon but de convaincre. En fait, je vais poser une pensée. Et en fait, je sais que cette pensée, elle va trouver les personnes. Et les personnes vont trouver, il y a une forme d'attraction qui va se passer. Et en fait, les gens qui vont en bénéficier et en même temps qui vont nourrir aussi cette pensée, ce courant, ces mouvements, vont se trouver. C'est-à-dire que très souvent, on fait l'erreur dans les mouvements de libération, donc que ce soit le féminisme ou l'antiracisme, ou enfin voilà, tous ces mouvements de libération, on fait l'erreur d'essayer de convaincre à tout prix les dominants. Et moi, je parle vraiment de dominant-dominé, c'est factuel, c'est une position politique, économique, culturelle, factuelle en fait. Il n'y a même pas de jugement là-dessus, c'est voilà. Et donc... Donc, essayer toujours dans une position de dominer. Donc, on va dire, voilà, si moi, en tant que lesbienne, j'essaie de convaincre les hétéros que être lesbienne, c'est pas une tare, on va dire, voilà, pour être très simpliste, je vais en fait diriger toute mon attention encore à nourrir une sorte de reconnaissance. Essayer donc par ça, en fait, d'être reconnue dans ce que je suis, en essayant de convaincre justement ce groupe de dominants que, voilà, c'est un thème qui vaut le coup d'être discuté, etc. C'est pareil pour, voilà, en tant que métisse, moi, si j'essaie de toujours parler du racisme aux blancs en leur disant « non, mais c'est hyper important, faut absolument que tu comprennes, etc. » Et en fait, à la place de faire ça, je pense que c'est important de rediriger notre regard et notre énergie vers, voilà, comment veut-on que le monde évolue? À la place du racisme, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? À la place du patriarcat, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? À quoi doit ressembler notre société sans patriarcat, sans racisme, etc. Et en fait, toute l'énergie qu'on met à essayer de convaincre les dominants, eh ben, on ne l'utilise pas justement à créer ce nouveau monde. et à le visualiser et aussi à le partager avec d'autres personnes qui sont affectées par les mêmes systèmes. Après, je ne dis pas que ce n'est pas important d'essayer justement d'atteindre un plus grand nombre de personnes, et c'est ce que j'ai fait avec le livre, mais d'une manière assez passive, je dirais, entre guillemets, puisque voilà, je l'écris le livre, mais je vais forcer personne à aller l'acheter en librairie. Voilà, et après, bah, dans l'argumentation, évidemment, voilà, les personnes qui sont prêtes à écouter, tout est là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va de soi, en fait. Il n'y a pas besoin de force, en fait.
Et non, ne perdons pas nos forces à convaincre, nous dit Emilia Roig. Mettons de l'énergie dans l'amour. L'amour qui revient sous la plume de l'activiste américaine Sonia Rini Taylor, qui parle, je cite, « d'un amour radical de soi ». Il nous faut un amour radical de soi. Imaginez l'énergie libérée si nous parvenions à découpler l'amour de soi et des autres. Ce n'est pas un hasard si dans le monde d'Orwell, en 1984, l'amour est interdit. C'est une des cibles principales de tout pouvoir autoritaire. L'amour est politique et subversif. Il est une arme face à la peur, une arme que manient notamment les marges de la société, car c'est une force d'action et de transformation sociale, comme c'est écrit dans le moment orwellien. L'amour, rien qu'à lui, nous donne des raisons d'être optimiste et de garder espoir.
Pour moi, c'est pas la même chose, parce que optimisme, c'est une posture qui s'explique parce qu'il y a des éléments objectifs qui nous montrent, par exemple, on voit le ciel, il y a plein de nuages, et puis au bout d'un moment, on voit un petit coin de ciel bleu, et là, on est optimiste parce qu'on dit « Ah, voilà, il risque de le temps va s'améliorer ». Mais si jamais le temps est complètement gris, que c'est le ciel est bloqué comme à Paris en hiver, et que je dis « à un moment donné, il va faire beau », ça relève de l'espoir. Et en fait, c'est cette posture que j'ai plutôt. Et donc, il y a 6 ans, quand j'ai écrit le livre, évidemment, on était dans une autre temporalité. C'était l'apogée du Black Lives Matter Movement, donc avec vraiment une émulation totale dans toute l'Europe, où on se disait, ça y est, c'est enfin le moment où on a une épiphanie collective. On va réussir à surmonter ce système du racisme qui nous enquiquine depuis des années, des décennies, même des siècles. Et aujourd'hui, on voit que le backlash est énorme. Et on s'y attendait pas. Enfin, je ne m'y attendais pas, en fait. Et je pense que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, que ce soit aussi violent et que ce soit aussi rapide. Donc, mais est-ce que ça veut dire que, voilà, pour autant, ce développement est annulé ? Non, pas du tout. En fait, c'est-à-dire que le progrès n'est pas linéaire. Et là où on se trouve aujourd'hui, c'est... c'est des remous qui se passent dans cette évolution, je dirais. Donc, le backlash, c'est aussi une indication qu'on est en phase de progrès. Sinon, il n'y aurait pas ce backlash, en fait. Il n'y aurait pas les masculinistes, il n'y aurait pas Trump et tous les partis populistes d'Europe si on n'avait pas fait d'énormes progrès. Après, c'est sûr que dans les institutions, on le voit à peine. C'est-à-dire que voilà, les personnes continuent de mourir en Méditerranée parce qu'ils ne sont pas secourus, parce qu'on a un régime de frontières extrêmement raciste et inhumain. Donc voilà, ces problèmes, ils perdurent et on continue d'être dans ces problématiques. Donc je dirais, sur le long terme, en fait, on a un développement où je pense qu'on est dans une phase de changement de paradigme. Mais pour qu'un paradigme aussi profond et aussi structurant que celui dans lequel on vit se périclite et puis ensuite disparaisse pour laisser place à un autre paradigme, ça met du temps, en fait. Et dans notre petite vie d'humain, ben, on va peut-être pas le voir, mais ça veut pas dire que c'est pas en train d'évoluer dans le bon sens.
Ah oui, pardon, je ne vous avais pas expliqué que le livre d'Emilia Roig est sorti il y a 6 ans en Allemagne, mais ce n'est qu'en 2026 que la traduction française est enfin disponible grâce aux éditions Hors d'atteinte. Et malheureusement, ce livre est toujours d'actualité car rien n'a beaucoup bougé, ou alors en pire peut-être. Non, je ne sombrerai pas dans le désespoir. D'abord, tant qu'il y a des poils, il y a de l'espoir, et des poils, mes invités en ont, comme vous et moi, j'imagine.
Alors mes poils, j'ai du poil sous les bras et en fait j'adore mes poils sous les bras et ça fait genre 10 ans que je les laisse pousser, que je me suis pas épilé les poils sous les bras. Il y a même une petite boucle en fait qui se crée de chaque côté parce que j'ai les cheveux bouclés. Et en fait c'est quelque chose qui, ça a été un tournant dans ma vie je crois, de justement pas seulement les accepter mais aussi les aimer en fait, de me dire voilà, c'est des poils, ils sont là pour une raison et je sais qu'on les déteste, qu'on nous apprend à les détester, à les trouver sales, les moches et tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'ai des poils aux jambes aussi. Ça, je suis un petit peu plus... Je dois peut-être les enlever une fois tous les deux ans, de temps en temps, quand ça me prend. Voilà, la dernière fois, j'étais au Brésil et en fait, j'étais